Donc nous sommes au troisième enseignement. Nous avons vu dans le premier enseignement que Jésus était lui-même notre sagesse, en tant qu'il est la vérité incarnée, le Logos fait chair, et que c'est par le chemin de la contemplation de Jésus, dans son humanité, à travers son humanité, que nous pouvons nous ouvrir à la vraie contemplation de Dieu, je dirais la contemplation de Dieu en esprit et en vérité, dans son mystère et dans son dessein éternel, sachant que Dieu nous révèle deux choses, lui-même et sa sainte volonté, dans le Christ. Alors, nous avons vu au deuxième enseignement, que nous devions faire attention à ne pas confondre les lumières particulières que nous pouvons recevoir dans notre journée, pas simplement durant notre temps de prière, mais on peut avoir toutes sortes d'inspirations qui nous sont données, mais qui ne sont pas Dieu lui-même, qui ne sont pas ce contact avec Dieu, avec le mystère de Dieu. Et qu'il nous fallait donc distinguer une contemplation que j'ai appelée théologique, disons, dans le cas de la personne qui médite la parole de Dieu et qui reçoit des lumières sur la parole de Dieu, comme aussi une contemplation faite d'inspiration particulière, de lumière particulière, avec la contemplation au sens fort, profond du terme, qui est contact, donc direct, de notre esprit avec Dieu lui-même. Et pour cela, nous devons progressivement nous détacher d'une certaine avidité de lumière, parce que plus on reçoit des lumières, et habituellement plus on en veut, une certaine avidité spirituelle qui nous pousserait à, par exemple, à lire de plus en plus de beaux livres spirituels à travers lesquels on reçoit des lumières, et qu'il nous faut donc préférer plutôt chercher Jésus lui-même. Et si je repense à la parole du Christ, celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Vous voyez, il faut toujours ça. Vous jouez au qui perd gagne avec Jésus. Il est très joueur et son jeu préféré, c'est le qui perd gagne. Donc, le qui perd gagne au niveau de la pensée, c'est celui qui lâche son désir d'avoir des lumières, par exemple, par rapport à son avenir, par rapport à sa vocation, des lumières par rapport à telle ou telle question intellectuelle, question profonde qui l'habite, quel est par exemple le sens de l'amour conjugal, quel est le sens, de telle ou telle réalité donc de la vie. Des fois, on est vraiment pris par un besoin de comprendre. Et Dieu nous demande de lâcher. Lâcher pour chercher d'abord son royaume, c'est-à-dire le chercher d'abord lui. Et avoir confiance que les lumières dont nous avons vraiment besoin sur notre vie, notamment sur notre appel, nous seront donnés par ce croix. Je dirais en proportion de notre renoncement. Et en réalité, c'est assez simple à comprendre, parce que la sagesse, donc qui doit guider nos pas, qui est la source de toutes les lumières particulières que nous pouvons recevoir de Dieu, cette sagesse est donnée à ceux qui ont un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Donc mon cœur est pur quand il est tourné vers Dieu lui-même. L'exemple pour moi le plus évident, c'est par exemple ce que j'ai vécu cet après-midi. J'ai pris un temps d'adoration, un vrai temps d'adoration, en me disant, mais est-ce que je vais avoir le temps de préparer l'enseignement ce soir? J'ai besoin de lumière particulière pour donner un enseignement. Je prends un long temps d'adoration sans chercher des lumières particulières. Et vers la fin de ce temps d'adoration, j'ai reçu des lumières particulières, je pense. En tout cas, j'ai reçu les lumières qui vont me permettre de faire ce cours. Alors vous me direz à la fin si c'était particulier ou pas. Mais en tout cas, je suis sûr que si j'avais été tendu pendant ce temps d'adoration, disant « mais bon, je suis là devant le Saint-Sacrement, mais l'important c'est quand même de réussir ce cours de ce soir », vous voyez, ben, ça n'aurait pas marché. Je vérifie aussi pour les homélies. Je me mets à prier en ayant dans le cœur une inquiétude par rapport à mon homélie, et bien l'homélie, elle ne vient pas. Les lumières viennent quand on ne les cherche plus. Et tant qu'on veut les posséder, tant qu'on veut savoir, tant qu'on veut avoir en fait une sécurité, tant qu'on est dans le vouloir finalement autre chose que Dieu, ben on perd. C'est pour ça que la parole de Jésus, celui qui perd sa vie à cause de moi, elle peut se décliner de multiples manières. Ici, donc, je le dis par rapport à cette manière qu'on a de vouloir gagner notre vie en ayant des lumières qui nous donnent une certaine sécurité. Alors, le mieux, c'est quand on prépare une homélie, qu'on a l'impression que c'est bien ficelé, et qu'on nous apprend juste avant la messe que finalement c'est pas la lecture qu'on a choisie, parce qu'on a choisi les lectures de la semaine pour l'unité. Voilà. Donc ça permet de lâcher. Alors, en voyant cette question de la comment dire, de préférer le Dieu des Lumières aux Lumières de Dieu, nous avons déjà, en fait, commencé à réfléchir sur ce qui est l'essentiel de cet enseignement, qui est le comment. Comment acquérir la sagesse? Donc, j'ai commencé le premier enseignement à dire ce qu'était la sagesse. On a approfondi au deuxième enseignement. Maintenant, nous rentrons vraiment dans le comment. Alors, Jésus a dit, il a dit qu'il était la vérité. Ça, nous l'avons vu. Mais il a dit, juste avant, je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour ce qui est de la vie, on verra ça au mois de juin. Mais, par contre, ici, ce qui nous intéresse au premier plan, c'est le chemin. Pas simplement la vérité, mais le chemin qui conduit à la vérité. Ça qu'il faut bien comprendre. Alors, donc c'est Jésus qui nous enseigne comment acquérir la sagesse. Est-ce qu'on peut décrire en une expression ce chemin qui conduit à la sagesse? Est-ce qu'il y a une voie qui est la voie par laquelle j'entre dans la sagesse? Autrement dit aussi, quel est le chemin que Jésus montre aux hommes pour qu'ils puissent réussir leur vie en Dieu? Mais la réponse, vous l'avez normalement dans votre cœur. Si vous avez gardé un cœur d'enfant, cette voie, vous la connaissez, c'est la voie d'enfance. Petite voix. Ça paraît logique que finalement Jésus nous conduit où? Il nous conduit au Père pour qu'on devienne des petits enfants bien-aimés de notre Père du ciel. Quand je dis des petits enfants, c'est peut-être comme des nouveau-nés qui reçoivent tout de leur Père du ciel, qui se laissent totalement aimer de lui. Et donc, si le but, c'est de devenir enfant de Dieu, le chemin, peut-être qu'un chemin d'enfance. Tu es béni, Père, d'avoir caché ça aux sages et aux savants, hein, et de l'avoir révélé aux tout petits. Nous trouvons dans l'Évangile, hein, une confirmation de cela, comme nous pourrions la trouver dans l'Ancien Testament. Puisque dans l'Ancien Testament, il est dit clairement que Dieu donne sa sagesse aux humbles. Il s'agit donc de retrouver les dispositions de l'enfant pour pouvoir se laisser enseigner par Dieu. C'est une autre manière aussi de dire les choses. Hein. Si vous avez fait déjà le catéchisme des enfants, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus réceptifs que les adultes. Parce que les enfants, ils ne savent pas. Donc, ils veulent bien apprendre. Tandis que quand on devient grand, on sait des choses, puisqu'on est grand, et donc on a du mal à se laisser enseigner. D'où l'importance de la catéchèse des enfants. De consacrer vraiment tout le soin nécessaire pour communiquer la parole de Dieu à des esprits, à des cœurs qui sont vierges, si je puis dire. Une terre vierge, une première empreinte qui est donnée. Alors je vous pose la question maintenant, pour nous qui sommes des adultes, qui avons perdu la fraîcheur de l'enfance, l'innocence, la pureté, l'humilité de l'enfance, comment suivre le Christ sur cette voie d'enfance pour acquérir la sagesse? Alors, ici, nous avons besoin d'un modèle de disciple de Jésus, d'une personne qui soit, je dirais, totalement sur le chemin de Jésus, dans sa recherche de la sagesse. Et évidemment, nous pensons à Marie, la Vierge Marie, première disciple du Christ, qui elle aussi a suivi un chemin de plus en plus profond pour entrer dans la lumière de Dieu. Alors, à quel moment pouvons-nous contempler Marie comme modèle d'un enfant de Dieu qui s'ouvre à la sagesse du Christ en suivant le Christ? De quel moment Marie a commencé à suivre Jésus? Dès l'Annonciation. Dès l'Annonciation, nous voyons qu'elle est entrée dans une sagesse nouvelle, puisqu'elle est entrée dans la révélation de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. De manière évidente, et c'est bon de le rappeler, Marie n'avait pas la connaissance intérieure du mystère de la Trinité. De manière évidente, elle n'a pas pensé le concept de Trinité. Elle n'a pas récité le symbole de la foi du concile de Nicée-Constantinople. Non. Mais elle a plongé dans le mystère. Elle y a adhéré. De tout son cœur, de tout son esprit. Elle qui connaissait simplement le Dieu créateur a connu son Père du ciel, comme le Père du Fils unique, qu'elle a accueilli donc dans son cœur avant de l'accueillir dans son sein. Et donc, elle est rentrée dans une intimité et une connaissance beaucoup plus profonde de Dieu. Et maintenant, nous nous posons la question, comment Marie s'est-elle ouverte au mystère? Quel est son secret? Quel est le secret? Quelle est la voie d'enfance vécue? Donc, au niveau de cette ouverture de notre esprit au mystère. Ici, on ne peut revenir qu'aux paroles de la Vierge elle-même. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. C'est par son fiat que Marie a pu donc s'ouvrir totalement au don de la sagesse qui a pris chair en elle. Non seulement elle a ouvert son cœur, mais cette sagesse a pu prendre chair en elle. Et la sagesse du Christ, le Christ sagesse plutôt, veut aussi prendre chair en nous. Et ça, ce sera un autre jour. Le fiat de Marie, c'est essentiellement quoi? C'est essentiellement un acte d'abandon. Nous sommes bien d'accord. On pourrait dire que la voie d'enfance, c'est essentiellement une voie d'abandon. D'abandon filial. Dans l'abandon, de certaine manière, tout est compris. À la fois l'humilité et la confiance de l'enfant. Il n'y a pas d'abandon filial sans humilité et sans confiance. Donc, habituellement, on décrit la voie d'enfance comme étant un chemin d'humilité, de confiance et d'abandon. Mais je pense qu'on peut tout saisir en parlant d'abord d'abandon. Donc, reprenons cet acte d'abandon de Marie, tel que l'Écriture nous le montre. Première parole de Marie, c'est « Je suis la servante du Seigneur ». Ici, nous voyons ce décentrement de soi dont nous avons parlé la dernière fois, un décentrement de soi qui fait que je suis vraiment tourné vers Dieu. Comment pourrais-je voir Dieu si je ne me tourne pas vers lui? Et comment pourrais-je me tourner vers Dieu si je ne rentre pas dans cette attitude d'obéissance? Si je n'accorde pas ma volonté à la sienne? Dans le « Je suis la servante du Seigneur », on sent qu'il y a une obéissance inconditionnelle. Surtout que le terme en grec pourrait se traduire « esclave ». Obéissance inconditionnelle à la volonté divine, comme l'unique absolu de ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Bien, ce que Dieu en voudra. Ça nous rappelle la sainte que Benoît XVI a mis en évidence, une nouvelle sainte canonisée par Jean-Paul II. Vous savez bien, c'est dans son encyclique sur l'espérance que vous pourrez vous procurer, donc vous pourrez vous procurer à la fin du cours, hein, j'en ai ramené quelques exemplaires, où Benoît XVI a parlé de Bakita, cette sainte d'origine africaine, je ne sais plus de quel pays elle était exactement, et elle avait été vendue comme esclave à différents maîtres qui l'ont, on peut dire, martyrisée, puisqu'elle a reçu un nombre incroyable de coups de fouet. jusqu'à ce qu'elle puisse être rachetée par un autre maître qui l'a conduit en Italie et qui là lui a fait découvrir, ce maître qui était chrétien, lui a fait découvrir, ça se passe au 19e siècle, lui a fait découvrir Jésus. Et elle est devenue une sainte. Et elle a même fondé des couvents, je ne connais pas les détails, je ne me souviens plus, mais je me souviens d'une histoire que Benoît XVI avait racontée à des séminaristes en dehors de son encyclique, qui était l'histoire d'un évêque qui avait visité son couvent, un moment où Paquita était vieillissante, avait été mise à l'écart. Comme beaucoup de saintes fondatrices, elle avait terminé dans un placard. C'est étonnant, mais ce n'est pas la première sainte fondatrice qui se fait un petit peu mettre à l'écart. Et donc, cette vieille sœur était à l'écart, et l'évêque la remarque, voit qu'apparemment, elle n'a pas beaucoup de place dans la communauté, et lui dit, et vous, ma sœur, qu'est-ce que vous faites? Vous connaissez la réponse? Et Paquita lui répond, la même chose que vous, Monseigneur. Un petit peu étonné, Monseigneur, qu'on ose lui répondre comme ça. Et alors, il demande une explication, mais il répond, la volonté de Dieu. Ça, c'est la vraie sainteté. La seule chose qu'on, c'est que je sois dans la volonté de Dieu. Que ce soit dans un placard ou en dehors du placard, que ce soit sur un siège épiscopal ou dans la cave d'un couvent, peu importe. L'unique nécessaire, l'unique absolu, c'est la volonté de divine, quelle que soit sa forme. Voyez, je vous dis ça, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui disent, bon, quand on leur dit il faut faire la volonté de Dieu, ils disent, oui, mais moi je ne vois pas qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de la vouloir, cette volonté de Dieu. Je peux la vouloir sans la connaître. C'est ça l'abandon, c'est de vouloir inconditionnellement ce que Dieu veut. Après, il nous le montre, si on le veut vraiment. Cette sainte volonté. Si du fond du cœur, on trouve sa joie à adhérer à la volonté divine, quelle que soit cette volonté divine, c'est pas possible qu'il ne le montre pas. Mais prenez l'exemple du petit enfant, puisqu'on est dans la voie d'enfance. Le petit enfant, quand son papa lui demande quelque chose, le tout petit, il est trop petit pour comprendre le sens de ce que son papa lui demande. Si son papa lui dit, viens, suis-moi, on va dehors, on va aller, je ne sais pas où, lui, il ne sait pas où on va, de toute façon. Papa peut toujours lui dire, on va aller dans tel lieu, lui, il ne voit pas du tout à quoi ça correspond. Il est trop petit pour comprendre. Mais qu'est-ce qui lui plaît? Ce qui lui plaît, c'est d'abord d'être avec son papa, et aussi de faire ce qui plaît à son papa. Parce qu'en faisant ce qui plaît à son papa, il sait qu'il va rester bien uni à son papa. Donc il va faire plaisir à son papa pour rester bien avec son papa. C'est comme ça que les enfants y marchent. Quant à savoir où on va et qu'est-ce qu'on va faire, ce n'est pas son problème. Ben voilà. Vous l'avez l'abandon. Quant à savoir ce que Dieu va faire de ma vie, ce qu'il va faire de ma personne, où je vais aller, ce n'est pas mon problème. Du moment que je tiens la main de mon papa, et que je fais ce qui plaît à mon papa, comme ça je suis toujours avec mon papa, ben, le petit enfant, hein, il a tout ce qu'il veut. Petite Thérèse, elle a même dit à ses sœurs, nous ne sommes pas là, dans la vie religieuse, pour devenir des saintes, mais pour faire ce qui fait plaisir à Dieu. Ce qui lui fait plaisir, de fait, c'est qu'on devienne saint. Mais le problème n'est pas d'abord de devenir saint, le problème est de faire plaisir à Dieu. Voilà, là, il y a un vrai décentrement de soi. Qui fait dire à l'Écriture que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Parce que, encore une fois, c'est évident que Celui qui, du fond du cœur, désire faire ce que Dieu veut, Dieu ne peut pas ne pas lui montrer sa sainte volonté. Mais il la lui montre quand c'est l'heure. Il ne lui montre pas nécessairement tout de suite. Il peut nous demander de rentrer dans des dispositions d'abandon, d'un abandon de plus en plus, je dirais, inconditionnel au sens de plus en plus aussi aveugle. On lâche le besoin qu'on a de maîtriser sa vie par la connaissance. Pour redevenir de plus en plus petit, c'est-à-dire le tout petit qui est contre le sein de sa mère, mon âme est en moi comme un petit enfant, comme un tout petit enfant contre sa mère. Le petit enfant qui est contre sa mère, là, il marche même pas avec son papa, il se tient collé contre le sein de sa mère. Lui, ce qui est sûr, c'est qu'il ne cherche pas à comprendre ce que sa mère veut. Il colle à sa maman. Et son désir ne fait qu'un avec le désir de sa maman. Alors, on ne va pas retourner dans un état plus ou moins fusionnel, mais vous voyez qu'avec Dieu, il y a cette question de redevenir de plus en plus confiant dans le sens d'une confiance aveugle, qui accepte de ne pas voir. Et souvent Dieu a dit à ses amis, ne cherche pas à comprendre, laisse-moi faire et laisse-toi faire. La personne qui dit, comme Marie, je suis la servante du Seigneur, est une personne qui a renoncé à agir d'elle-même. C'est une personne qui ne se donne pas de marge de liberté, au sens où, par rapport à la volonté divine, d'autonomie. Vous voyez, au sens où il y aurait un certain champ de notre vie, bon, par exemple le champ apostolique, on dirait, bon ben là, c'est important de discerner, il faut vraiment discerner qu'est-ce que le Seigneur veut. Oui. Bon, alors on a fait son activité apostolique dans la journée, hein, on a essayé d'être bien à l'écoute de ce que le Seigneur voulait qu'on fasse pour lui, puis ensuite on se retrouve avec des amis au restaurant. Là, cool, hein? On se lâche. On se lâche, mais en fait, en réalité, on ne se perd pas. On se lâche, mais on ne lâche pas. Parce qu'on est là, en fait, on est content de retrouver un tel, on voudrait parler avec un tel. Je ne parle pas du menu, hein, où il se mêle quelquefois des attachements excessifs. Tel ou tel plat, qui n'est pas nécessairement le meilleur pour nous, enfin bon, ça c'est une parenthèse pour vous préparer au carême. Mais pensez à ces moments où on est comme si, ça y est maintenant, la référence à Dieu, Dieu n'est pas contre le restaurant, ça c'est sûr. Il n'est pas contre les amis, non, ça c'est sûr. Il n'est pas contre la bonne bouffe, non, ça c'est sûr. Mais il nous demande quand même de rester à son écoute. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais il n'y a aucun moment où on soit libre de faire sa volonté propre et non pas la volonté divine. Il n'y a pas de repos dans l'abandon. L'abandon, c'est non-stop. L'abandon filial. Le petit enfant, il n'y a pas un moment où il dit « Ah, ben maintenant, je suis grand, je fais ce que je veux, je suis au restaurant. » Reste avec la main de son papa. Si son papa lui dit « Écoute, ça, c'est tel plat que tu vas prendre, puis je te mets à côté de telle personne. » Comme ça, tu joueras avec tel petit, ben, c'est pas celui que j'aurais aimé jouer avec. Maintenant, tu joues avec celui-là, et voilà, il fait confiance à son papa. Puis il lui donne tel jouet pour jouer à ce moment-là, il fait jour, une fois qu'il a mangé son plat du jour, ben, nous, au restaurant, il faudrait faire comme ça, vous voyez, on ne choisit pas vraiment la personne avec laquelle il est. La dernière fois que je me suis assis à une table, c'était un week-end communautaire. J'avais des affaires à régler, entre guillemets, toujours des affaires à régler. Et je vois un frère, j'ai senti que je devais lui dire une chose, mais c'était pas tellement lui que j'aurais aimé voir. Mais les personnes que j'aurais aimé voir, je ne savais pas qui c'était. Je connaissais juste le nom. Alors, je m'arrête, parce que c'était pas mon désir, mais je m'arrête pour parler avec la personne. Moi, j'avais rien amené à manger. Finalement, c'était un truc sandwich communautaire, les communautés de l'Emmanuel. Je m'arrête, et puis, alors je parle avec la personne, puis il y a un couple, au bout de la table, à 3 mètres de moi, qui me dit, vous voulez une part de tarte? Je dis, bon, je veux bien, je n'ai pas dit que j'avais rien, mais manger. Après, il me propose du jambon, je ne suis pas contre. Puis je me dis, mais c'est bien, je reçois ce que Dieu me donne, bon, abandonnons-nous, mais il faut quand même que je vois ce couple. Il y avait à peu près 150 personnes. Et je me dis, bon, alors comment je vais faire? Alors, puis finalement, j'ai lâché. Je me suis dit, oh, bah, tant pis, je ne vais peut-être pas. Ce sera une autre fois. Hein. Et puis je parle avec les personnes, tout ça, et puis la conversation, je me laisse. Et vous ne savez pas ce que je découvre? C'était le couple en question. Et eux, ils me connaissaient, moi, je ne les connaissais pas. Alors, ils étaient tout contents sur la table. Hein, et moi, je serais parti dans le self. Il y avait, je ne sais pas, moi, peut-être 25 tables. En cherchant une coupe, je suis sûr que je n'aurais pas trouvé. En plus, il a fallu que je revienne à la case départ. Vous voyez, le Seigneur, il est très joueur. J'avais lâché le couple, il était là. Et donc, c'est toujours le keeper gagne. Et jouer au keeper gagne sur tous les terrains. Quand vous faites vos courses, quand vous allez avec des amis, à aucun moment se donner le droit de dire ben, « là, je fais ce que je veux quand même ». Restez à l'écoute du désir de Dieu. Vous allez me dire « Dieu, il ne donne pas des lumières tout le temps ». Non, il ne donne pas des lumières tout le temps. S'il n'y a plus de savon à la maison, c'est sûr qu'il va falloir acheter du savon. Ça, il n'y a pas besoin d'une lumière particulière. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter n'importe quelle marque. Moi, maintenant, j'ai repéré dans les magasins. Il ne faut pas se précipiter. Ce qui est plus cher est bien devant. Et ce qui est intéressant, plutôt sur le côté, en bas. Donc, si on est un peu pressé, qu'on n'est pas dans l'abandon, on fonce sur le truc devant. Je suis pressé, moi, il faut que je fasse mes courses, tout ça. On se prend des machins, puis on arrive après, on se dit, ah, mais j'ai peut-être oublié de regarder s'il n'y avait pas d'autres produits plus intéressants. On revient, et on s'aperçoit que, de fait, il y avait des stylos billes. Je ne dis pas deux fois moins cher, mais cinq fois moins cher. Comme celui-là que j'ai trouvé récemment. Alors, l'abandon en tout qui permet de se laisser guider par Dieu, parce que est-ce que Dieu s'intéresse à mes courses? Ouais, il s'intéresse à tout. Mais alors, vraiment, il est délicat jusque dans les plus petits détails de la vie. Et plus on s'abandonne à lui, plus il est délicat. Mais avec une délicatesse qui est de plus en plus touchante. Et donc, en fait, on y gagne toujours à rester dans cette attitude que mon mari est le modèle, je suis la servante du Seigneur. Sinon, on est comparable à quoi? À partir du moment où on veut suivre notre volonté propre comme un grand, en fait, on se retrouve aveuglé par l'orgueil, parce qu'il n'y a rien qui aveugle plus que l'orgueil. Et donc, on est comme un aveugle qui veut se guider par lui-même. Et un aveugle qui veut se guider par lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Dit Jésus, il tombe dans un trou, fatalement. Ça explique beaucoup de chutes dans notre vie. Mais il y a des grosses chutes et bien des petites chutes. Mais en réalité, Dieu n'a besoin que de notre abandon, et nous, si on sort de l'abandon, prochain tournant, ben, des fois, on ne s'en aperçoit pas. Je vais vous donner un autre exemple. À un moment, j'ai été pris par une sorte de... Alors là, je me suis fait avoir. J'ai été pris par une sorte de tension, vous voyez, à vouloir gagner à tout prix du temps, c'est jamais bon. À vouloir aller le plus vite possible, c'est jamais bon. Dieu, généralement, il n'est pas pressé. Enfin, il y a des moments où on doit courir, hein, mais un état de tension, vous voyez, où on veut à tout prix, prendre le premier train. Ça, c'est mon problème, les trains. Gare Saint-Lazare. Alors, on est tendu, on court, hein, on regarde le panneau, quel numéro 5, quel numéro 7, quel numéro 9, on essaie de repérer l'interaction, tout ça, et on fonce parce qu'on a décidé qu'on était pressé, qu'en fait, on n'était pas vraiment, hein, et gagner du temps. La dernière fois que je me suis fait avoir, c'est que j'ai regardé les panneaux. J'étais tellement pressé que j'ai mal vu. Je me suis trompé de métro. À 2 minutes près, ce n'était pas le même train. Je fonce un truc. Au moment où j'arrive vers le train, il y a un gros panneau rouge qui s'allume pour indiquer qu'on ne peut plus monter. Je ne vois rien, je refuse de me voir. Je fonce dans le train, je rentre dans le train, les portes se ferment. Ce n'était pas la bonne direction. Vous voyez le truc. Un petit manquement à l'abandon, un petit manque de confiance, tension, on ne discerne plus, on fonce dans le tas, on se retrouve à perpète. Je m'en suis sorti avec la grâce de Dieu. Mais je n'étais pas fier. Alors, comment on peut échapper à cet aveuglement qui nous guette tous à chaque fois qu'on lâche la main de celui qui nous conduit à la sagesse, Jésus? Quand je dis on lâche la main de Jésus, parce que c'est évident que le premier serviteur du Seigneur, c'est Jésus, le serviteur du Père. Il a vécu une vie de serviteur pour que nous puissions nous-mêmes rentrer dans cet esprit de serviteur. Et quand Marie dit « Je suis la servante du Seigneur », elle suit Jésus. Ben oui. Le Fils a toujours fait la volonté du Père. Il a toujours collé au bon plaisir de son Père du ciel. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous voyons au moment de l'agonie, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc ici, nous sommes toujours avec la voix d'enfance, hein, dans une suite du Christ. Et qu'est-ce que dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean, hein? On retrouve deux références où Jésus dit « Je ne fais rien de moi-même ». C'est ce que je disais. Hein? Renoncer à faire de soi-même les choses. C'est-à-dire d'une origine qui vient de notre volonté propre et non pas de notre obéissance à la volonté de Dieu. Et il dit aussi, je ne peux rien faire de moi-même. Ça, c'est dans Jean 5. Et je ne peux rien faire de moi-même, ça manifeste un état d'humilité dans lequel le Christ est en contact permanent avec son impuissance à faire quoi que ce soit en dehors de la volonté du Père, puisqu'il vit par le Père. Et que sortir de l'obéissance, pour lui, signifierait sortir de la vie. Mais ce n'est pas possible. n'a pas d'autre vie que sa relation au Père. Il est plus dépendant au Père que le plus petit enfant collé contre sa mère. Et donc, quand Jésus dit « je ne peux rien faire de moi-même », il veut dire « je vis par cette relation d'amour avec le Père ». Et cette relation d'amour avec le Père, elle a une forme fondamentale qui est celle de l'obéissance. Et je vous dis ça, c'est parce que ce qui peut nous aider donc à avancer sur ce chemin d'ouverture à la lumière en suivant la voie d'enfance, c'est effectivement de laisser Dieu nous montrer de plus en plus notre impuissance. Même notre impuissance à prendre le bon train. Ou à prendre le bon wagon. Vous voyez, parce que ça m'est arrivé il y a longtemps. À l'époque, il y avait les TGV, il y avait des réservations séparées des billets. Ça m'est arrivé une fois de ne pas pouvoir prendre la réservation, d'avoir que le billet. Alors là, j'ai été docile, j'ai senti que j'allais remonter dans un wagon, j'ai senti que c'était le wagon suivant qu'il fallait prendre. C'était toujours le même train, hein. Et quand je suis descendu, le contrôleur, il était à 3 mètres. J'ai échappé au contrôleur, voyez, en prenant le bon wagon. Parce qu'on ne sait pas à quelle heure passera le contrôleur. Mais le Seigneur le sait, lui, qui avertit ses amis, hein, parce qu'il n'y avait pas de faute de ma part, je n'avais pas pu prendre la réservation. Donc pensez à ces deux choses. Le bon train et le bon wagon quand vous n'avez pas les billets. Condition que vous ne l'ayez pas fait exprès. Parce que sinon, il ne faut quand même pas demander au bon Dieu de favoriser la fraude. Que vous ne l'ayez pas fait exprès ou que vous ne puissiez pas payer, ça marche aussi. Ça, si on ne peut pas payer, on ne peut pas payer. Et si on doit prendre le train, il faut bien le prendre. S'il y a vraiment nécessité, il ne faut pas hésiter. En bonne morale chrétienne, vous voyez. Alors, ce chemin d'humilité, il se fait à travers les épreuves. C'est-à-dire, plus on fait l'expérience qu'à chaque fois qu'on a voulu être autonome dans notre manière de voir et de penser les choses, dans notre manière de gérer les choses. Et plus on s'aperçoit que nos crises d'autonomie, je veux bien faire comme je veux quand même, ça conduit à rien. Si ce n'est à rendre des situations encore plus compliquées. Bon. Alors, ici, je fais une petite pause. Pour vous dire que j'ai suivi un enseignement récemment pour le but, c'était précisément un parcours de formation pour des équipes d'animation pastorale. Alors, les quatre composantes de la vie d'une équipe, produire, gérer, entreprendre, animer. Ça vous dit quelque chose? Non, c'est-à-dire, dans une équipe qui gagne, voyez, au niveau pastoral, il faut qu'il y ait des gens de style producteur. Oui. Non, le producteur, c'est celui qui perd pas le nord, au sens où il se dit, c'est bien tout ce qu'on dit, mais enfin, il faut faire des choses, il faut passer à l'action. Quel sens de l'action? Action concrète. Après, il y a celui qui est dans le gérer. C'est celui qui dit, vous avez une bonne idée, mais c'est pas gérable. Pas gérable de te donner les finances de la paroisse, t'en donner les trucs. Vous voyez? Donc, le gestionnaire, il en faut. Et puis, il y a entreprendre, c'est-à-dire celui qui a l'esprit d'entreprise, qui est de dire, cette année, on va complètement changer tout le système de catéchèse. J'ai décidé d'élargir tel ou tel domaine, et ça. Celui qui a l'esprit d'entreprise, il en faut. Et puis il y a animé, l'animateur, c'est celui qui met de l'ambiance. Petit café, petit gâteau, hein, convivial. Voilà. En gros, c'était la présentation. Alors, c'est sympa, mais évidemment, c'est copié sur le modèle des entreprises. Et avec le bon Dieu n'est pas contre les entreprises, mais le problème de cette entreprise qui est l'Église, c'est que le boss, c'est Dieu. Le boss, c'est Dieu. Et ça, ça a été fait, ce schéma-là a été fait à Los Angeles par un professeur d'université qui s'est penché sur la question de comment un bon chef d'entreprise pouvait bien constituer des équipes en ayant donc des tempéraments différents, qui se complètent. Et alors, j'ai posé la question, parce qu'il y a un autre, il y a d'autres catégories, vous voyez, qui appartiennent à l'action catholique, dans ce qu'elle a de meilleur. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression « voir, juger, agir ». Je vois la réalité dans la lumière de Dieu. Je me laisse éclairer. Je rencontre les personnes. J'habite le quartier. Je vois. Juger. Je discerne. Je me laisse éclairer par Dieu. Je joins de sagesse. Et agir, l'action suit la pensée. Vous voyez, on est dans une autre... C'est pas contradictoire, mais là, il n'y a pas question gérer, entreprendre, c'est... Bon. Mais se voir juger agir, il est dans un esprit, en fait, profondément évangélique. Alors, j'ai posé la question... Celui qui animait la séance était très sympathique, était conscient que ça n'était que des repères pour aider certains curés en difficulté à voir pourquoi leur équipe fonctionnait mal, par exemple. Par exemple, s'il n'y a que des gens qui sont style entreprise et que tout le monde a des projets, les réunions, ça ne peut pas bien se passer, et que personne ne pense qu'il y a, des finances aussi, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et alors, je lui ai demandé, il a dit... Oui, ça peut rejoindre, mais il y a un truc qui n'existe pas du tout dans le système que j'ai mis, c'est le juger. Et je trouvais ça intéressant. C'est vrai, produire, gérer, entreprendre, animer, où est le juger? Où est le discernement? Il n'apparaît pas. La seule personne dont on n'a pas besoin ici, c'est d'un sage. Hein, comme par hasard. La question du discernement, elle n'apparaît pas dans le schéma entreprise. Tiens. Ah oui. Alors, je vais raconter une histoire. C'est un chef d'entreprise qui, avant la guerre de 14, hein, d'une de ces grandes entreprises du Nord, fait beaucoup de bénéfices. Il s'est posé la question, est-ce que je vais construire une deuxième usine? Ça donnera du travail aux gens, ce serait bien, et puis ça... parce qu'il avait amassé pas mal d'or. Et au lieu de faire simplement produire, gérer, entreprendre, animer, prendre une équipe, on dit bon, ben voilà, on calcule, il a fait un pèlerinage à la basilique du Sacré-Cœur. Et il a reçu dans son cœur la réponse non. C'était contraire à toute la logique humaine, contraire à toutes les règles de la bonne gestion. Selon les principes d'une gestion où l'homme décide par lui-même en définitive. Où il n'y a pas d'autre boss que l'homme. Mais pour lui, le boss, c'était Dieu. Et donc, il n'était pas PDG, il était DG seulement. PDG, il était à la basilique du Sacré-Cœur. Donc il est allé voir le PDG, et le PDG a dit non. Il y a eu la guerre. Son entreprise a été complètement ruinée. Comme il avait gardé l'or, il a pu en reconstruire une autre. Conclusion, il y a des choses que nous ne savons pas, mais que Dieu sait. Et même dans la gestion des choses humaines, on a besoin d'un discernement qui n'est pas simplement un discernement selon des techniques de gestion, de management, comme on dit maintenant. C'est tout, c'est une petite remarque. Les entreprises françaises qui ont investi en Iran, à un certain moment, elles se sont quand même pas mal mordues les doigts. Les entreprises françaises qui ont investi en Irak, moi je les ai pas vues faire de pèlerinage au Sacré-Cœur. Ils m'ont peut-être échappé, mais oui, alors s'ils ont fait le pèlerinage au Sacré-Cœur, ils n'ont pas bien écouté. Bien. Alors, à l'inverse, hein, vous avez une Jeanne d'Arc. Vous ne connaissez rien à l'art de la guerre, qui remporte des victoires à la David, c'est-à-dire on laisse Dieu guider la bataille. Alors par rapport à ça, vous voyez, on vit dans un monde qui a décidé de se passer de Dieu. Donc au niveau du travail, de l'entreprise, tout est fait sans Dieu. Tout doit marcher sans Dieu, sans écouter Dieu. C'est le principe de base. De toute façon, personne ne pense même qu'il pourrait éventuellement écouter Dieu. Ça ne rentre pas dans les. Et même, malheureusement, dans des institutions qui sont parfois catholiques. Parce qu'on a décidé qu'il fallait faire professionnel. Donc, on suit les enseignements sur produire, gérer l'entreprise, l'année, et puis c'est bon, ça roule. Non. Alors. Par rapport à ça, je prends une image simple, hein, qui est tirée de saint Thomas d'Aquin. C'est que saint Thomas d'Aquin dit à un moment qu'il vaut mieux avancer lentement sur le bon chemin que de courir sur le mauvais. Il n'y a pas besoin de s'appeler saint Thomas d'Aquin pour dire ça. Mais une entreprise humaine, quand je dis entreprise, prenons le sens large, hein, on a un projet qu'on veut mener à terme, en fonction d'un objectif, tout ça. Et si l'objectif, si ce n'est pas celui de Dieu, si on n'est pas dans la ligne de Dieu, on peut avoir un super moteur, on peut avoir les meilleurs atouts humains, on court dans la mauvaise direction. Ça sert à quoi ? L'homme le plus accompli, dit le livre de la sagesse, celui qui a toutes les catégories, c'est lui manque la sagesse. Sera tenu pour rien. On court vite, mais vers la ruine. Parce qu'on construit la maison sans les fondations. Ça rappelle une certaine évolution d'une certaine société moderne. Si le Seigneur nous corrige, hein, c'est parce qu'il nous aime. Donc s'il permet qu'il y ait beaucoup de choses qui s'effondrent, c'est parce qu'il corrige ce qu'il aime. C'est pas qu'on soit condamné à un chemin de mort. Moi je pense pas du tout que notre civilisation va disparaître. Je pense simplement qu'elle est en plein travail d'accouchement d'une nouvelle civilisation et qu'on accouche dans les douleurs parce qu'il va falloir briser l'orgueil humain. Alors briser l'orgueil de l'homme moderne. Il n'y a pas moyen de faire autrement pour repartir sur des bases saines. Et remettre Dieu au centre. Donc, vous comprenez que dans le « Je suis la servante du Seigneur », de certaine manière, tout est dit. Mais Marie rajoute qu'il me soit fait selon ta parole. Je ne fais rien de moi-même et je ne pense pas de moi-même. C'est lié, hein, à partir du moment où on se donne un droit de penser soi-même, on agit de soi-même. Le contraire, enfin, ce que le Seigneur nous demande, ne pas penser de nous-mêmes, En fait, ça veut dire commencer par écouter. Écouter avant de penser. Qu'il me soit fait selon ta parole, ça veut dire j'écoute. Mais de toute façon, on ne peut pas être dans une attitude servante si on commence pas par écouter. Il paraît qu'en hébreu, écouter et obéir, c'est le même verbe. Moi, je ne suis pas spécialiste. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est que pour ne pas penser de soi-même, non seulement il ne faut pas se construire des plans, comme on dit maintenant, se faire des plans, il ne faut pas se laisser aller à s'exalter dans toutes sortes de calculs qui fait qu'on aura l'impression de reconstruire le monde. Mais il ne faut même pas se donner le droit de penser à n'importe quoi. Vous avez bien entendu. Même pas se donner le droit de penser à n'importe quoi. Par exemple, on se rappelle tel événement. Ouais, on se rappelle tel événement. Et donc, on va tirer de notre mémoire une pensée sur telle chose. Puis, qu'est-ce qu'elle fait notre imagination? À part de tel événement, on se met à penser que, ah ben oui, mais. Ben oui, mais alors, ça pourrait se reproduire. Par exemple, on a vécu un échec. Dans tel domaine. Puis on y pense. Et puis on se dit, oulala, mais il faut que je fasse attention, hein, parce que je pourrais revivre la même chose. Et puis on se met à avoir peur. C'est bien, on est déjà parti dans le décor. Saint Jean de la Croix explique que les pièges du malin, la grande majorité, ça vient de la mémoire. Il se sert de la mémoire pour nous faire partir dans toutes sortes de raisonnements. Qui sont des raisonnements humains, parce qu'on est parti de choses auxquelles on a pensé de soi-même, on est parti d'une pensée toute humaine, comme ça, on s'est rappelé un souvenir, et à partir de là, on a construit. Comme on dit maintenant, et l'expression c'est très bien, on s'est fait un film. Mais on ne se serait pas fait un film si on n'avait pas pensé à quelque chose. Vous allez me dire, ne pas penser de soi-même, penser à rien, c'est pas possible. Écoutez, là vous m'écoutez. Est-ce que pendant que vous écoutez vraiment, vous pensez à quelque chose? Normalement, non. Si vous écoutez vraiment, vous écoutez, ça produit des pensées. Mais vous ne pensez pas de vous-même. Vous écoutez, et puis ça vous fait penser à quelque chose, d'accord? Si vous pensez à quelque chose pendant que je parle, vous n'écoutez plus. Vous suivez votre petit réflexion à vous, vous êtes parti, vous êtes distrait. Donc, en réalité, tant qu'on est dans l'écoute, on ne pense pas de soi-même. Alors, comment vivre cette écoute, si c'est le secret? Qu'il me soit fait selon ta parole. La première chose qu'on pourrait dire, c'est que c'est l'écoute de la foi. Autrement dit, l'obéissance de la foi, qui doit être à l'origine de pensées qui ne sont pas les nôtres, mais celles de Dieu. L'obéissance de la foi, c'est par rapport à la parole révélée, à l'Écriture sainte. Il y a ainsi, par exemple, dans la prière, quand nous ouvrons la Bible, Pendant la messe, quand nous écoutons l'Évangile, il y a des lumières qui nous sont données sur ce que nous avons à faire à partir d'une simple écoute de la parole de Dieu, toute simple. Et moins on cherche à comprendre humainement la parole, et plus elle est éclairante. On la laisse descendre dans notre cœur, tout simplement, et elle finit par produire un fruit de pensée. Alors, il y a des fois où la parole, elle est pile poil, vraiment, c'est clair, c'est net, que ça coïncide tellement clairement avec... et ça coïncide avec... ça coïncide avec quoi? Avec notre situation, mais aussi avec ce que l'on porte dans son cœur. Je vous donne un exemple tout simple. Quand j'ai dû quitter la basilique, j'ai reçu une parole par des frères qui m'ont dit « C'est le Seigneur Jésus qui appelait à lui et celui qui quitte... » Père, mère, frère, maison, champ. Moi, j'avais quitté beaucoup de choses en quittant la basilique, ça m'a rejoint. Je ne me suis pas posé 36 000 questions. J'ai laissé cette parole descendre dans mon cœur, elle rejoignait ce que je sentais, c'est-à-dire nécessité de lâcher, détachement. La parole rejoint ce qu'on a dans le cœur. On la laisse descendre, elle nous donne une force, elle nous donne une lumière plus grande encore. Mais il faut toujours penser que Dieu parle et nous demande d'écouter une parole extérieure. Et cette parole extérieure, la preuve qu'elle vient de lui, c'est qu'elle résonne avec notre cœur. Elle résonne avec ce que le Seigneur avait déjà mis de lumière dans notre cœur. Sauf quand on refuse de se convertir. S'il y a un point où on résiste à Dieu, la parole que nous écoutons, qui va frapper la porte de notre cœur, sans pouvoir y pénétrer parce que notre cœur est fermé à la lumière, elle nous agace. Elle nous énerve. Mais il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui m'a dit « Oui, il m'a sorti tel passage de l'Évangile comme ça, comme si ça s'adressait à moi. » Mais c'est pas du tout, c'est pas ça du tout, mais rien à voir avec moi, c'est pourquoi il m'a dit ça. Mais... Alors, s'il y a des paroles qui vous énervent, allez voir un médecin. Enfin, Jésus, je veux dire. Vous pouvez lui en parler. Si ça vous titille, vraiment, et que ça ne vous lâche pas, il y a un anguille sous roche. L'attitude d'écoute, elle est par rapport à la révélation. Et ici, nous voyons Marie dans son attitude d'écoute. Elle écoute l'ange, sois sans crainte. Voici que tu concevras dans ton sein, enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Qu'est-ce que vous voulez que Marie comprenne à ça? Elle aura un enfant qui va régner pour les siècles. Ça paraît difficilement pensable. Sur le trône de Jacob, il ne reste rien. La royauté est complètement détruite. Il annonce un enfant qui va régner pour les siècles. Déjà, si on commence à penser, on est mal parti. Marie est face à une révélation qui dépasse infiniment tout ce qu'elle peut concevoir humainement. Comment elle réagit? Vous voyez, il y a des paroles qui nous sont dites par le Seigneur qui nous apparaissent incroyables. Comment cela va-t-il se faire? Attention, Marie ne dit pas Simplement, comment cela va-t-il se faire? Parce que ça, ça pourrait être un manque de confiance en la parole. Or, Dieu est le maître de l'impossible. Donc, il me demande, par exemple, je ne sais pas moi, de quitter mon travail. Je ne vois pas bien où ça conduit, mais si c'est lui qui m'appelle, il faut que j'ai une confiance totale qu'il me trouvera un autre travail, ou je ne sais pas. Enfin, bon. Des fois, le Seigneur peut nous demander de sauter dans le vide. Mais attention, Marie dit quand même, parce que je suis vierge, comment cela se fait-il, puisque je ne connais pas d'homme? Ici, il n'y a pas 36 000 interprétations. Marie a fait vœu de virginité. À l'époque, on sait qu'il y avait des couples qui faisaient un vœu, qui vivaient une vie monastique. Si vous voulez, dans l'esprit de la communauté de Qumran, dont on a beaucoup parlé, vous voyez, qui étaient des sortes de monastères juifs, qui avaient choisi ce style de vie parce qu'ils attendaient la venue du Messie. Ils étaient tellement sûrs que le Messie allait bientôt arriver que... Il y avait une ferveur, une effervescence qu'on n'imagine pas. Donc ici, je ne connais pas d'homme, c'est j'ai répondu à l'appel de Dieu dans mon cœur et je me suis consacré. Maintenant, toi, l'ange, tu me dis que je vais concevoir. Moi, je veux bien, mais ce que Dieu me dit ne peut pas être en contradiction avec ce qu'il m'a dit. Et dans mon cœur, j'appartiens à Dieu et je suis vierge et je me suis consacré dans la virginité. Et donc si toi, l'ange, enfin, il ne dit pas comme ça, mais c'est sous-entendu, ça peut pas, cette révélation doit s'entendre d'une manière qui ne peut pas être en contradiction avec ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et donc elle pose la question, mais c'est pas un doute par rapport à la toute-puissance de Dieu. C'est plutôt, comme le pensait le père Thomas Philippe, que, est-ce que c'est vraiment l'ange du Seigneur? Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas une illusion? Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas une illusion? C'est que Dieu ne peut pas se contredire. Des fois, on part sur une parole et la manière dont on la comprend est en contradiction avec d'autres paroles ou avec l'enseignement de l'Église. C'est pas possible. Ou c'est en contradiction avec ce que le pape dit. C'est pas possible. Contradiction avec le catéchisme. C'est pas possible. Donc, attention, une écoute. Voyez, une obéissance de la foi face à la parole révélée ne signifie pas qu'on lâche la raison. Marie n'a pas lâché la raison. En ce sens-là, elle n'est pas comme un petit enfant qui ne raisonne pas. Non, elle a l'usage de la raison. Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge, puisque je ne connais pas d'homme? Vous voyez, dans la manière dont on écoute Dieu, Dieu ne demande pas de lâcher l'usage de la raison, de la droite raison. Mais l'usage de la droite raison, c'est autre chose que de se perdre dans des raisonnements humains. J'espère que vous comprenez la distinction. C'est-à-dire, ce que Dieu révèle ne peut pas être en contradiction avec les exigences de la droite raison, notamment avec le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas dire à la fois une chose et son contraire. Donc Dieu, quand il nous demande d'écouter, ne nous demande pas de perdre la tête. Une personne qui m'a dit ce matin qu'elle sentait l'appel à donner ses biens aux pauvres. J'ai quand même vérifié. J'ai dit, vous appelez à donner vos biens aux pauvres, mais est-ce que vous avez pensé que vous auriez besoin d'un logement? Oui, 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 quand même. Ben oui, parce que il y en a qui perdent la tête. ne peut demander à tout le monde, mais si c'est pour nous retrouver sans logement et sans rien, a priori, non. Parce que ce n'est pas raisonnable, au sens profond du terme. On peut toujours dire Saint François d'Assise, ceci, cela, mais là, on est dans l'imagination. Bon, il se demande quelque chose d'extraordinaire, vraiment, qui serait apparemment en contradiction avec la raison. À ce moment-là, il faut vraiment, je dirais, demander une confirmation, voir quelqu'un. Il peut y avoir un appel extraordinaire, mais a priori, il faut faire très attention que ce qui est de l'ordre du bon sens n'est pas révélé par Dieu. Ce qui est de l'ordre du bon sens, Dieu nous demande de le comprendre avec notre bon sens. Donc, je m'abandonne, ça ne signifie pas j'arrête de penser. Ça signifie j'arrête de penser de moi-même. Mais ça ne signifie pas j'arrête de penser par moi-même. C'est différent. Penser par soi-même, ça veut dire penser en faisant appel à la raison. Dans sa rigueur, dans sa logique. De même, Dieu ne peut pas me demander quelque chose qui soit en contradiction avec la loi naturelle. Il ne peut pas me dire, par exemple, telle personne, elle est divorcée, mais je sens un appel très fort à l'épouser. Je suis désolé, mais moi, je n'y crois pas. Il y a des gens qui expliquent qu'ils ont senti très fort dans la prière qu'ils devaient épouser quelqu'un de divorcé. Moi, je ne peux pas être en contradiction avec ce qui est écrit dans l'Évangile, avec ce que l'Église enseigne. Non, il faut faire vraiment une démonstration claire et nette, mais je ne vois pas comment Dieu pourrait se mettre en contradiction avec ce qu'il dit par ailleurs. Décide de vivre avec la personne, mais sans être dans une vie conjugale, ce qui est possible. Vivre sous le même toit. C'est mener une vie commune, par un appel particulier, il faut en avoir la force, en respectant la loi divine. Oui, ce que je dis est un peu rude, mais parce que je dis ça par rapport à une question qui touche tout le monde ici, parce que tous nous sommes confrontés à des situations comme ça, mais je dis là, il ne faut pas perdre la tête. Il faut dire, moi j'ai un appel particulier, le Seigneur m'a montré que c'était cette personne. Est-ce qu'elle est libre? Ah non, elle n'est pas libre, mais ça ne fait rien, moi j'ai un appel charismatique, je suis inspiré. Non. Non. Il ne va pas y avoir un ange qui va apparaître en disant, voilà, dans le catéchisme, il y a marqué que... Non. Dieu dit, écoute, là, ça dépend de nous. Au niveau de la pensée, il y a des vérités qui sont accessibles à la droite raison. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste, dit Jésus à un moment aux foules. Voyez, l'abandon au niveau de la pensée ne signifie pas être dans une sorte d'infantilisme au niveau de la pensée qui fait qu'on se laisserait influencer par tout le monde, qu'on arrêterait de réfléchir par soi-même. Non. Mais c'est une invitation à ne pas vouloir maîtriser sa pensée, au sens de s'appuyer uniquement sur le raisonnement logique. C'est différent de respecter la logique et de s'appuyer sur la logique. Respecter la logique, c'est ce que Dieu m'a dit, ne peut pas être en contradiction avec ce que l'Église enseigne, par exemple. Ça, c'est respecter la logique. Et s'appuyer sur la logique, c'est partir dans des raisonnements apparemment logiques, où en fait, on finit par raisonner à vide. Pour s'ouvrir à la contemplation, il faut mourir à la logique, m'a dit une fois le Père Marie-Dominique Philippe. Pour s'ouvrir à la contemplation, il faut mourir à la logique. Mourir à la logique, c'est aussi mourir à des idées voyez, que l'on tient, que l'on possède et auquel on tient, comme un peu des principes qu'on s'est mis dans la tête. Par rapport à notre vie, on a l'idée qu'on a telle vocation, tel appel, et puis on n'en démord pas. Moi, je m'étais mis dans la tête que, de toute façon, je ne reviendrai jamais sur une paroisse. Je n'étais pas fait pour être vicaire ni curé. Je ne suis pas curé, mais je suis vicaire. Mais pourtant, c'était dans ma tête depuis des années. C'était une pensée humaine. Et j'avais plein de raisons apparemment logiques pour le penser. Les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Et donc, c'est tout un art que de penser en Dieu et avec Dieu, de pas de penser de soi-même, mais par contre de penser par soi-même. Et finalement, on s'aperçoit que quand on écoute Dieu, quand on est vraiment à l'écoute de Dieu, on est beaucoup plus libre au niveau de sa pensée. On pense par soi-même quand c'est Dieu qu'on écoute. Par contre, quand on a décidé qu'on était autonome au niveau de sa pensée, on se laisse mener par quoi? Par les modes, par les slogans, par les idées qui courent. Hein? Comme ça, une personne qui avait avorté dans les années 70, et je lui ai demandé pourquoi elle avait avorté, elle regrettait terriblement d'avoir commis cet avortement étant jeune, surtout qu'elle n'a plus d'enfants ensuite. Elle m'a dit parce que à l'époque, l'idée c'était je suis libre de choisir. Moi, ça l'avait séduit. Je suis libre de choisir. Elle n'a pas choisi selon son cœur, hein. Elle s'est laissée prendre par l'idée. Ah ben, liberté. Alors, je suis libre de choisir. Bon, moi alors j'avorte. Hein. Elle n'a pas écouté son cœur. Elle n'a pas pensé par elle-même. Elle a été prise par l'idéologie dominante. Et on finit par faire des actions que l'on ne pense pas vraiment bonnes de soi-même. À ne pas vouloir dépendre de Dieu, on devient dépendant des autres. C'est pas qu'on se trouve soi-même comme adulte, responsable, non, au contraire. On s'aliène. Regardez, globalement, dans notre société, vous trouvez que les gens sont libres au niveau de la pensée. On est de plus en plus formaté, de plus en plus matraqué au niveau des moyens de communication, mais aussi de plus en plus faible au niveau d'une capacité de résistance, c'est-à-dire d'un jugement de conscience personnelle. Alors, ce qui était condamné par la loi il y a 40 ans, maintenant, c'est devenu un droit, donc je pense à l'avortement, et pour la plupart, ça ne leur viendrait même pas à l'idée qu'ils puissent remettre ça en cause. Tellement la pression idéologique est forte, mais surtout tellement l'esprit est affaibli. C'est-à-dire les gens n'ont plus assez de liberté d'esprit pour résister à la pression. C'est surtout ça qui est dramatique, c'est-à-dire les gens ne jugent plus par eux-mêmes. Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de ce qui est juste, dit Jésus. Donc celui qui nous appelle à obéir inconditionnellement à la parole de Dieu est celui-là même qui nous appelle à la liberté de la pensée, mais la vraie liberté. Et la vraie liberté de la pensée, elle vient quand j'écoute, en même temps que j'écoute Dieu, j'écoute mon cœur. J'écoute ce que Dieu me dit, mon cœur, ma conscience profonde. Parce que Dieu parle à mon cœur. Et donc, quand j'écoute vraiment Dieu, j'écoute en même temps mon cœur. Et donc, je pense par moi-même, du plus intime de moi-même, là où Dieu parle. Par contre, si je n'ai pas le cœur ouvert à Dieu, à la lumière intérieure que lui seul peut mettre dans mon cœur, eh bien, je suis quoi? Je suis mes raisonnements, mais mes raisonnements, ils viennent d'où? De mes peurs, de ma culpabilité, de mes passions, de mes faux espoirs, des passions humaines, en gros. qui fait que nos raisonnements ne sont jamais objectifs quand ils sont de nous-mêmes. Il n'y a pas de raisonnement pur quand ça vient, comme dit saint Paul, de la chair. Les raisonnements de la chair ne peuvent pas être purs, ils ne peuvent pas être lumineux, parce qu'en réalité, ils sont sous l'influence cachée des passions de la chair. Et donc, on croit raisonner librement, et en fait, on est un aliéné à la fois de la société, des pressions dominantes et de nos propres passions. Est-ce que Dieu nous demande d'écouter pour être dans cet abandon au niveau de nos pensées? Est-ce que Dieu nous demande simplement d'écouter à la fois sa parole, notre conscience avec la loi naturelle qui est inscrite dans notre cœur, et notre raison, et la raison pratique? Comme on dit, et puis la raison spéculative, quand on dit raison spéculative, c'est par rapport à la vérité, pas la vérité pratique, la vérité en elle-même, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai de dire ceci et de dire cela? Et pas simplement, est-ce que c'est bon que je fasse ceci ou pas? Et donc, je répète la question, est-ce que Dieu nous demande simplement d'écouter à la fois sa parole, notre conscience morale et notre raison, notamment dans ce principe de non-contradiction, c'est-à-dire qu'une chose ne peut pas être à la fois vraie et son contraire. C'est-à-dire, autrement dit, d'écouter la logique. Respecter la logique. Est-ce que ces trois éléments, raison pratique, raison spéculative et écoute de l'Écriture, l'enseignement de l'Église, est-ce que ça suffit pour être dans cet abandon au niveau des pensées? Ou est-ce qu'il y a encore une autre forme d'écoute que Dieu nous demande? Si on est dans le concret, écoutez le Cyracien, évite le mal. Ça, c'est la droite raison pratique. Je ne dois pas faire le mal. Respecte la loi naturelle. Et rajoute le Cyracien, tiens compte des circonstances. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement que l'écoute de ma conscience morale, de ma raison, au sens donc d'une raison qui cherche à discerner ce qui est logiquement vrai et ce qui ne l'est pas. Mais il y a aussi l'écoute de la réalité. Tenir compte des circonstances et tout simplement regarder la réalité. Manifestement, il y avait une conversation très, très amicale. Lui était proche de la mort. Et quand j'entre, il est là, en fait perdu dans ses pensées. Il avait dû reparler plein de choses avec cette personne. Je ne le vois pas. Je ne fais pas attention. Je suis simplement dans mon désir de parler de choses dont on avait déjà parlé. De Dieu, de ceci. C'est pas le moment. Tous les signaux sont au rouge. Je fonce quand même. Ça s'appelle quoi? C'est l'imprudence de la jeunesse. tient pas compte des circonstances. On veut servir l'autre, mais on ne le voit pas. On ne voit pas dans quel état il est. Et donc, comment pourrait-on adapter son langage ? Alors, tenir compte des circonstances, écouter le réel, que Dieu nous parle aussi à travers la réalité qu'on voit et qu'on entend. C'est-à-dire d'ouvrir ses yeux tout simplement, et ses oreilles, et aussi d'ouvrir l'oreille de son cœur, hein, et les yeux du cœur. Ça, c'est autre chose que simplement d'écouter la Sainte Écriture. Il y a certains moments où Dieu va nous demander simplement, comme dit le Séracide, évite le mal et tiens compte des circonstances. On n'aura pas nécessairement, vous voyez, une parole de l'Évangile qui va nous revenir dans le cœur et qui va nous éclairer. Mais évite le mal et tiens compte des circonstances. Habite la terre. Écoute jusqu'au bout. N'arrête pas un moment d'écouter le réel. Ne décroche pas du réel. Alors ça, l'exemple typique, c'est dans le dialogue. Oui. L'Écriture dit qu'il est insensé celui qui interrompt celui qui parle. C'est-à-dire, je n'écoute pas jusqu'au bout. Alors, attention, il y a des moments où on peut dire, écoutez, j'ai peu de temps, hein, je vais vous quitter dans 5 minutes, alors moi ça m'arrive, même dans les confessions, d'écouter, aller à l'essentiel, parce que... Puis il y en a qui ne confessent pas simplement leur péché, mais le péché des parents, de la sœur, des enfants, des frères, ça fait beaucoup de confessions à la fois, donc on réduit le péché personnel. Hein? Bien. Mais il y a des moments où l'écoute du réel, c'est aussi écouter le fait qu'on a un temps limité pour écouter. Donc je ne dis pas qu'il faut rentrer dans une écoute sans borne, mais je dis simplement qu'il ne faut jamais parler sans d'abord écouter l'autre. Et s'il ne parle pas, d'écouter l'état dans lequel il est. D'écouter son regard. Ben oui. Et il ne faut pas simplement suivre sa petite inspiration, vous voyez, dite spirituelle. Parce que ce que Dieu met dans notre cœur, normalement, c'est adapté au réel. Lui, Dieu, il connaît le réel et il le voit. Donc lui, il en tient compte. Et si on ne veut pas tenir compte du réel, alors que Dieu, lui, est infiniment respectueux du réel, c'est-à-dire notamment de l'autre, de celui que j'ai en face de moi, si on ne veut pas respecter ce réel et s'adapter à lui, en l'écoutant, bien on est à côté de Dieu. On est à côté des pensées de Dieu. Et aussi, qu'est-ce que nous dit la foi ? Que les circonstances de notre vie, ce qui nous arrive, tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on a à faire et à supporter, tout ce qui fait notre vie, tout ça, en définitive, l'Écriture nous demande de le recevoir dans la foi. Pas à proprement parler dans l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi, c'est un terme spécifique réservé à la révélation. Mais de le recevoir, je dirais, dans l'humilité de la foi et la confiance de la foi qui fait qu'on reçoit, comme dit le Concile, toute chose de la main de Dieu. C'est-à-dire, Dieu me parle à travers la réalité puisqu'en définitive, il sait ce qu'il permet. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il permet et il se sert de tout pour me conduire. Et donc, je n'ai qu'une chose à faire, c'est d'abord écouter tout. Hein. J'écoute le réel, je zappe rien. Je tâche d'être présent à tout. Et je n'ai pas le droit de ne pas être présent à un moment à la réalité présente. Bien maintenant, je pars dans mes rêves, ça y est, non. Parce qu'à partir dans ces rêves, ben déjà, on ne prend pas le bon train. On plane, quoi. On a, on, En tant que chrétien, on devrait être les hommes les plus réalistes qui soient. Puisqu'on a la motivation la plus profonde d'adhérer au réel, ce réel, c'est Dieu qui me le donne. Ce réel, il vient de Dieu. Dieu l'a voulu ou l'a permis. La réalité qu'il m'est donnée de vivre maintenant, je la reçois dans la foi aussi, dans une certaine obéissance, que bien, Dieu sait ce qu'il permet. Et il veut me conduire à travers ça. Il y a un chemin qui s'ouvre. Il n'y a aucun mal que Dieu ne puisse tourner en bien. Donc Dieu ne me demande pas de fuir quand face à des situations douloureuses, de pas vouloir les voir. Il ne me demande pas de me réfugier dans l'imaginaire. Il me demande d'être dans cette attitude d'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont, les accueillir telles qu'elles sont, pour pouvoir avoir la lumière sur les choses. Et à ce moment-là, l'image qui vient, vous voyez, c'est que le monde actuellement, il n'est pas très beau à voir. Je reconnais qu'on a souvent envie de fermer les yeux. Mais je suis dans cette étude d'acceptation de la réalité. Une réalité qui fait peur, une réalité qui est dure. Et Dieu m'apprend, plutôt Jésus m'apprend à marcher sur les eaux. C'est la tempête, mais je marche sur les eaux. Certes, en regardant Jésus d'abord, mais aussi marcher sur les eaux, ça veut dire aussi habiter la terre. Mais je ne m'arrête pas au mal. Je vois Dieu derrière. Je ne m'arrête pas aux événements dramatiques. Je vois Dieu derrière, la main de Dieu. Donc en fait, je ne regarde que Dieu. Mais je regarde Dieu tout en regardant le réel. Je regarde Dieu à travers le réel. Je ne vois que Dieu. Je vois Dieu en tout. Et tout en Dieu, pour reprendre l'expression que j'emploie. Voir Dieu en tout, pour pouvoir voir tout en Dieu. On peut être à la fois, on doit être à la fois mystique et réaliste. Non seulement c'est pas contradictoire, mais ça va ensemble. Regardez, Mère Teresa, elle était hyper réaliste. Et en même temps, c'est une vraie mystique. Dernier degré.